Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Point de voyage vers les sources que les saints anges n'accompagnent. Point de combat contre les ombres qu'ils ne combattent à nos côtés. Aucune veille dans la nuit qu'ils n'accompagnent en silence. Et point de course vers l'aurore qu'ils ne conduisent en secret. Point de prière ni de cri qu'ils ne présentent à notre Père. Même à la voie la plus obscure est orientée vers la lumière. Anges de Dieu, ces messagers, veillez de Dieu aux yeux ouverts, emportez-nous dans la louange pour contempler le Dieu très saint. Avec nous, nous rendons grâce à Dieu le Père et à son Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, depuis toujours et dans les siècles. Amen. Alors, pour aujourd'hui, on va continuer encore cette relecture du Nouveau Testament en réveillant un peu certaines choses que vous connaissez, bien sûr, que vous avez, mais qui permettent dans cette rencontre de renouveler un peu ce que la parole nous dit des anges. Et pour commencer, je vais commencer avec une prière de Séraphin. Nous te prions, Père invisible, fais de nous des hommes vivants. Donne-nous l'esprit de lumière, afin que nous te connaissions, toi, le véritable et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donne-nous le Saint-Esprit, afin que nous puissions dire et raconter tes mystères ineffables. Que parle en nous le Seigneur Jésus avec le Saint-Esprit. Qu'il te célèbre par nous, car tu es au-dessus de toute principauté, puissance, force, seigneurie, au-dessus de tout nom prononcé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Mille milliers et 10 000 myriades d'anges, d'archanges, de trônes, de seigneuries, de principautés, de puissances sont près de toi. Et surtout les deux séraphins, très vénérables, aux 6 ailes. De deux, ils se voient la face, de deux, les ailes, les pieds, et de deux, ils volent. Ils chantent ta sainteté, reçois notre acclamation avec la leur, quand nous te disons « Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth, plein est le ciel et la terre de ta gloire merveilleuse. » Eh bien, c'est donc l'évêque Sérapion du IVe siècle qui a fait cette prière que nous venons de prier. L'avènement du Christ n'a pas aboli le ministère des anges. Ça aurait pu être possible. Le monde angélique reste regroupé autour du Christ ressuscité et glorieux, qui est désormais le centre de l'histoire du salut. Ce qui signifie que le ministère angélique vient maintenant se préciser et devient plus présent encore qu'il ne l'a été dans l'Ancien Testament. Et c'est d'abord l'incarnation qui fait apparaître le ministère des deux grands anges, Gabriel et Michel. Ces deux anges étaient déjà connus dans l'Ancien Testament, mais leur service maintenant est orienté vers Jésus. Gabriel d'abord. Le nom de Gabriel est composé de deux mots, de Géber, homme fort et El, Dieu. Il signifie héros de Dieu. Ce n'est pas un homme, mais un être supérieur qui se manifeste sous une apparence d'homme. Il a des ailes qui lui permettent de voler rapidement. C'est sous des images de ce genre qu'ont été décrits dans l'Ancien Testament les chérubins et la vision d'Ézéchiel, dont nous avons juste simplement parlé un peu, mais pas beaucoup. Il est l'annonciateur des heureuses nouvelles. Ah, oui. On l'appelle l'ange de l'Annonciation, parce qu'il apparaît trois fois. Une fois en Daniel, pour lui annoncer la prédication des sept semaines qui mèneront à l'enfant Jésus. À Zacharie, pour la naissance de Jean le Baptiste, et à Marie, pour la naissance du Fils de Dieu. Donc il apparaît trois fois. Une exégèse particulière permet de voir qu'il est l'ange de l'Annonciation, qui interviendra au temps voulu auprès de la Vierge Marie. Alors, c'est un texte extraordinaire qui a été écrit par Daniel. Et voici ce texte. Daniel, me voici. Alors, c'est l'ange Gabriel qui parle à Daniel. Daniel, me voici. Je suis venu pour t'instruire dans l'intelligence. Dès le début de ta supplication, une parole a été émise et je suis venu te l'annoncer. Tu es l'homme des prédictions. Pénètre la parole, comprends la vision que voici. Sont assignées 70 semaines pour ton peuple et ta ville sainte, pour mettre un terme à la transgression, pour expier l'iniquité. Prends parole, qu'on revienne et qu'on bâtisse Jérusalem, jusqu'à un prince messie, c'est-à-dire pendant 70 semaines. Voilà, donc il y a une annonciation que l'archange Gabriel vient pour annoncer à Daniel ce mystère qu'il y a 70 semaines qui vont s'écouler jusqu'à la venue d'un messie. Alors, c'est quand même un texte extraordinaire. Il annonce donc la venue d'un messie-messie, d'un prince-messie qui doit rebâtir Jérusalem. Eh bien, un exégète fait remarquer que saint Luc connaissait très bien cette prophétie quand il a écrit son évangile. Quand il écrit que c'était l'ange Gabriel lui-même qui est venu annoncer à Marie l'incarnation du Verbe de Dieu. Et cet exégète qui essayait de comprendre qu'est-ce que c'était que cette donc annonciation-là, nous dit que donc Luc s'est inspiré de ce texte-là pour faire coïncider les 70 semaines avec la naissance de Jésus. Et il fait un calcul subtil. Alors, si vous avez des crayons, on va pouvoir le calculer. En Luc 1, 11, Gabriel annonce à Zacharie la naissance de son fils Jean le Baptiste. Bien. En Luc 1, 26, le même Gabriel annonce à Marie qu'elle est choisie pour être la mère du Messie. Entre les deux annonces, il s'est écoulé combien de jours? Le texte nous dit... Le texte nous dit 6 mois. Il faudrait regarder le texte. Le texte nous dit 6 mois. Or, 6 mois de 30 jours, ça fait 18, ça fait 180 jours. Alors notons 180 jours. Ensuite, ça a été le temps de la grossesse de Marie, après avoir annoncé donc à Marie qu'elle serait, elle donnerait le Messie. Entre les deux aînants, il s'est écoulé. Donc ça, le temps de la grossesse à Marie dura 9 mois. Ça fait 270 jours. Bon. L'enfant est présenté au temple, selon la loi de Moïse. Quand ? 40 jours après sa naissance. Alors, si on additionne ces trois chiffres, 180, 270, 40. Ça fait ? Non. Ça fait 490. Or, 490, ça fait combien de semaines ? Ça fait 70 semaines. Alors, ce qui veut dire que la prophétie de Daniel vient de s'accomplir avec la naissance de l'enfant Jésus qui est présenté dans le temple et que donc l'enfant que Marie présente dans le temple, c'est celui que Gabriel avait annoncé comme le Seigneur prince qui allait donc venir. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la prophétie qui avait été annoncée par l'ange Gabriel au prophète vient de se réaliser. Et celui, l'enfant qui est présenté dans le temple, c'est donc réellement le prince de la vie, le Seigneur Jésus. Et Gabriel annonce à la fois la naissance de Marie, la naissance de l'enfant en Marie, c'est la première annonciation à Marie, mais c'est aussi en même temps l'annonciation que l'enfant qui naît de Marie est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment le prince attendu. La profession de Daniel est donc bien accomplie. Elle signifie que l'enfant que Marie et Joseph viennent présenter au temple, c'est bien le Messie que l'archange Gabriel avait annoncé au prophète Daniel. C'est donc une exégèse remarquable de celui qui a trouvé cette exégèse, et ça valait la peine de la mentionner. La Gabriel apparaît donc dans la Bible ou dans une vision, et son aspect, chaque fois qu'il se présente, est semblable à un homme robuste. En le voyant, je fus saisi de terreur et tombé face à terre, dit le prophète Daniel, qui a manqué s'évanouir en voyant l'archange Gabriel venir jusqu'à lui. Alors, dans le Nouveau Testament, il se révèle d'abord à Zacharie. Il lui annonce qu'il se tient devant Dieu. Il fait partie des sept anges qui se tiennent devant Dieu. Zacharie doute de lui dans le temple, ce qui lui vaut une semonce de Gabriel, en même temps une déclaration de son nom et de son importance. Il dit, « Comment ? Toi, tu ne crois pas en moi ? Moi qui suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu ?» J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer la bonne nouvelle, et voici que tu vas être réduit au silence, parce que tu n'as pas cru en mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. On voit que Gabriel est quelqu'un de très important. Gabriel est choisi pour porter à Marie le message de l'incarnation. Combien de fois, en cours d'année, dans l'année liturgique, nous célébrons ce passage de Luc 1, 28. Salut comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le texte ne dit rien de la forme dont l'ange s'est revêtu pour venir voir Marie. On ne voit pas qu'il ait des ailes en entrant chez Marie ou en la quittant. Ce qui est important dans le texte de Luc, c'est la foi de Marie. On comprend qu'il y a une différence entre la question que posait Zacharie à Daniel et celle que Marie pose à l'ange. Zacharie veut connaître la vérité du message pour y adhérer. il lui semble impossible que sa femme puisse, à son âge, avoir un enfant. Il doute de la vérité du message apporté par l'ange. Marie, elle ne veut pas s'assurer de la vérité du message. Elle désire simplement savoir comment il va pouvoir se réaliser. Vous voyez la grande différence entre les deux. Elle ne doute pas, elle ne cherche simplement qu'à connaître le mode de réalisation de cette annonciation. Eh bien, cette précision me semble très importante, car elle fait passer la raison derrière la foi. Et souvent, c'est le contraire. On veut d'abord comprendre. Et c'est parce qu'on a compris alors qu'on va adhérer. Et si on n'a pas compris, eh bien, on refuse de croire. C'est le cas de saint Thomas, pour qui un mort ne peut pas ressusciter. Il ne pourra donc croire que s'il voit. C'est-à-dire si sa raison est obligée de le soumettre à la réalité. La foi, c'est tout le contraire. La foi, elle accorde sa confiance, quelles que soient les circonstances. Marie est placée devant une énormité, la maternité divine. Elle pourrait très bien dire, mais mon cher messager, c'est très gentil, hein, vous venez de votre part de m'annoncer une telle nouvelle, mais écoutez-moi, vous avez perdu la tête. Hein. Comment voulez-vous me faire croire à moi qu'il soit une femme qui va enfanter Dieu? Je ne suis pas plus intelligente qu'une autre, mais vous ne ferez pas avaler cette monstruosité-là. L'annonce à Zacharie aurait pu être déconcertante pour la raison de Marie. Parce que, déjà, comment une femme, déjà pour lui, pour Marie, pour Zacharie, quand il reçoit cette annonce de l'archange, comment une femme puisse enfanter à son âge? Et ce qu'il annonce à Marie est encore plus déconcertant. D'ailleurs, l'ange le sait bien, puisqu'il conclut son message en disant « Rien n'est impossible à Dieu ». Donc on peut dire aussi que Marie reprend la foi d'Abraham, comme Abraham aussi avait discuté, comme Abraham aussi, sans discuter, avait accueilli les anges. Il avait accepté aussi d'offrir son fils Isaac en holocauste. Et Marie devra mener sa foi sans défaillance, elle aussi, jusqu'au calvaire. Donc, en accueillant dans la foi l'annonce de Gabriel, Marie engage en elle la foi de tout le peuple de Dieu qu'elle représente, la foi de l'Église qui naît à ce moment dans l'âme même de Marie. Bon, je pense que c'est une chose importante, cela, parce que notre relation à Marie, bénéficie de la foi de Marie. Cette foi qui a été d'accepter la plus extraordinaire événement qui pourrait se produire dans le monde, Marie l'a accepté. Je suis l'humble servante. Et alors donc, nous sommes des héritiers, par l'Église, de cet événement de Marie, et nous sommes donc fortifiés chaque fois par Marie pour faire le même acte de foi qui dépasse la raison. Gabriel avait annoncé un fils qui sera grand et qui sera appelé fils du Très-Haut, ce qui signifie qu'il est le Messie. Et à la question que pose Marie du comment se réalisera cet événement, Gabriel annonce l'intervention du Saint-Esprit qui opérera en dehors de la foi normale de la conception. L'enfant aura, pour ainsi dire, Dieu le Père, et lui-même Et l'annonce de Gabriel concerne donc la divinité du Christ, sa filiation éternelle. Marie n'a certainement pu entrevoir tout ce mystère d'un seul coup, mais suffisamment pour dire « Je suis la servante du Seigneur ». Eh bien, nous aussi, nous avons à cheminer tout le long de notre vie dans le mystère d'une révélation de la présence en nous du Fils de Dieu, et nous le faisons comme Marie par le don du Saint-Esprit qui nous éveille progressivement à la véritable identité de Jésus, Fils de Dieu. Notre vœu, notre foi chemine et elle devient adulte et parfaite quand nous pouvons un jour dans notre vie dire de tout notre être « Jésus, Fils de Dieu ». Et notre vocation est d'adhérer à cette confession qui fait de nous des fils de Dieu. Par Marie, nous entrons dans la filiation des fils de Dieu. Saint Michel Archange. On lui donne le nom d'archange pour signifier son importance en tant que prince de la milice céleste. Dans l'Ancien Testament, il est appelé un des premiers chefs. Par rapport à Israël, il en assure la protection. Il s'ensuit qu'il occupe un rang très élevé dans la hiérarchie des anges. Il entrera en conflit avec l'ange des Perses et des Grecs, chacun étant préoccupé du bien de la nation qui lui est attribué. Mais quand la volonté de Dieu se manifeste, alors chaque ange, en chaque ange, préposé à la nation, s'incline. On verra que, effectivement, Dieu a donné des anges pour veiller sur chaque pays, chaque nation. Et lui, il est destiné à être le protecteur d'Israël. En Daniel 10, 20, Michel se dit « celui qui prête main forte à Israël, son peuple, peuple de Dieu ». Il est le grand prince qui se tient auprès des fils de son peuple Israël. Et dans la tradition juive, Michel se révélera à la fin des temps pour relever les morts, certains pour une vie paradisiaque et d'autres pour un opprobre, une mort pour des temps infinis. Il est celui qui donc guide nos âmes vers le ciel. Et dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, nous lisons un verset difficile à interpréter où Michel entre en conflit avec le bas, le diable, au sujet du corps de Maïs, de Moïse, ça va mal, en Jude 9. La tradition juive rapporte que devant le tribunal divin, Michel ne prononça contre Satan aucune accusation injurieuse. Il s'en remit simplement à Dieu pour faire justice. Selon cette tradition, Michel demande la délivrance des justes en se faisant leur avocat contre les accusations de Satan. Il aurait eu la même attitude de défenseur à l'occasion d'une querelle avec Satan au sujet du corps de Moïse. Ça, c'est cet épître de Jude qui retient ces événements. Quelle fut exactement la raison de la contestation qui a fait que Michel a dû combattre contre Satan? Il semble que Satan refusait que Moïse soit enterré avec honneur pour avoir tué jadis un Égyptien en le cachant ensuite dans le sable. Donc il aurait commis un crime qu'il aurait impossible d'avoir une sépulture normale. Et comme Satan voulait profiter de l'ensevelissement du corps de Moïse pour en faire un culte idolâtre, Michel s'opposa en tenant secret le lieu de l'ensevelissement de Moïse, d'où la querelle. Michel ne condamna pas Satan, mais il le renvoya au jugement de Dieu. Alors dans tout cela, dans cette méditation des rabbins, là, tout cela, il y a ce fait aussi que, eh bien, on ne sait pas où et comment, comment c'est sur le mont Nebo, comment Moïse a quitté la terre et personne n'a retrouvé son corps. Et c'est à cause de ça, donc, qu'il y a eu une discussion dans le ciel entre Satan et entre l'archange Saint-Michel au sujet du corps de Moïse, alors que Satan donc disait qu'il voulait en faire une sépulture idolâtre. Maintenant, en Saint Paul, 1 Thessaloniciens 4,16. Il y a l'annonce que le Seigneur lui-même descendra du ciel à la voix de l'archange et de la trompette de Dieu, et que les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Il n'est pas mentionné là qu'il s'agisse de l'archange Saint-Michel, mais la tradition y a vu Saint-Michel. Donc Saint-Michel, qui est l'archange, qui est la trompette de Dieu, viendra descendre, et que les morts ressusciteront en premier lieu à la voix de cet archange qui donc se manifestera au moment du jugement. Le livre de l'Apocalypse lui-même donne beaucoup plus de détails sur Saint Michel. En Apocalypse 12, 7, Michel terrasse le dragon, l'expulse du paradis. Alors là, après-demain, nous réfléchirons longuement sur ce texte qui est très très important, ce texte 12 qui met en cause aussi l'attaque de Satan contre Marie, donc les temps eschatologiques et le grand combat eschatologique qui s'ensuit. Une guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges eurent à combattre contre le dragon. Le dragon combattit ainsi que ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus, pour eux, de place dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent antique, dénommé Diable et Satan, le séducteur de l'univers. Il fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui furent précipités. Donc, il y a eu un combat dans le ciel, où Michel et ses anges l'emportèrent, ce qui fait qu'ils chassèrent du ciel Satan et ses autres anges avec lui. Cette guerre est mystérieuse, bien sûr. Peut-être que Saint Jean utilise là une ancienne tradition qui réactualise par la victoire de Jésus sur la croix, puisque Jésus avait déclaré qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que, à cause de cette parole, Jean a dû peut-être s'en inspirer pour écrire ce passage-là de l'Évangile de l'Apocalypse? C'est le Seigneur lui-même qui exécutera donc la victoire de Michel et célébrée dans le ciel comme la victoire de Jésus. C'est ce que chantent en fait les martyrs qui sont les premiers sauvés dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12e. Bien, il est quand même intéressant de rappeler ce qu'écrivent des auteurs apocryphes au sujet de Michel. Et de ce côté, le pape Paul VI qualifiait Satan d'être vivant, spirituel, perverti et pervertisseur. Et c'est donc Michel, c'est aussi Marie qui doit écraser la tête de l'antique serpent. Et c'est Marie qui est la pure lumière de l'aurore du monde nouveau, qui par elle-même chasse les ténèbres, de sorte que Satan ne peut soutenir son éclat. Il y a donc dans ce combat qui s'est passé dans le ciel, un combat avec Michel qui reste victorieux, et c'est aussi le même combat que l'on retrouve dans ce même chapitre de l'Apocalypse, avec Marie qui elle-même réalise aussi cette victoire définitive contre le Satan qui est chassé parce que d'elle-même, et ça, enfin, bon, ça c'est une expérience que j'ai moi personnellement, en écoutant parfois des gens qui ont des difficultés de, disons, de démons, de possession de démons, eh bien on voit que si on en appelle à Marie, alors à ce moment le démon réagit réellement. Il ne peut pas supporter le nom de Marie. Donc Marie est bien avec Michel, tous les deux qui ont combattu vraiment pour détruire l'Empire sous cette entrée de Satan. Michel Archange, maintenant, il est l'Église. Il a une place plus reconnue dans la prière de l'Église que ne l'a l'Archange Saint-Michel, Saint-Gabriel, pardon. Il est le protecteur de l'Église, comme il était aussi le protecteur d'Israël. Dès le commencement de l'Église, Satan s'efforce de faire périr ses enfants et Michel le terrasse. Dans la litanie des saints de l'Église, on lui donne la première place après la Sainte Vierge Marie. L'Église l'implore. Saint Michel, viens au secours du peuple de Dieu. À cause de sa lutte victorieuse contre le Satan, l'Église le considère surtout comme le défenseur des âmes qui vont passer dans l'autre vie. C'est à lui que Dieu a confié les âmes des saints pour qu'ils les conduisent au joyeux paradis. Donc, déjà, cet archange pour l'Église, l'archange Saint-Michel n'est pas seulement celui qui les protège, mais c'est surtout celui aussi qui conduit les hommes jusqu'au paradis. J'ai relu le rituel actuel des funérailles, sans trouver, hélas, de mention de Saint-Michel ou des anges. Et une fois de plus, c'est pour dire ce que je vous disais en introduction, combien même dans l'Église, le monde angélique a disparu.
Il y avait cette hymne, là, une paradisum, du cantus angeli, l'hymne qui était chantée autrefois,
oui.
Une paradisum, voilà. Du cantus angeli.
Voilà, oui, oui. Et ça, ça a disparu. Ce n'est plus dans le rituel même de l'Église. Et c'est quand même une chose, enfin, une preuve une fois de plus de la disparition du monde angélique où on ne s'occupe plus que des réalisations, disons, enfin, un aspect tout à fait rationnel du mystère qui ne veut plus rien dire que du mystère lui-même. Et ce n'est que dans un des derniers répons du dernier adieu qu'on appelle les saints du ciel à porter secours et à accueillir l'âme du défunt. Mais sans prononcer de nom précis. Alors le texte dit ceci, que les anges t'introduisent auprès du Seigneur Jésus. C'est tout. C'est déjà quelque chose. Mais le nom de Michel, toute cette tradition a disparu. Dans le même rituel qui offre des prières d'abord à la maison, aucune mention des anges. Parce que le prière, donc on va d'abord dans la maison pour prier pour le défunt. À la fermeture du cercueil, rien du tout. Au départ de la maison, rien du tout. Toutes les prières sont adressées au Seigneur, très bien, mais aucune mention non plus dans les prières faites devant la tour, devant la tombe, pour le dernier adieu. Même à ce moment-là, on ne pense même pas à invoquer les saints anges, et Michel particulier. L'Église aujourd'hui ne tient pas compte, hélas, du monde angélique. Elle subit l'influence d'un monde paganisé pour qui le monde angélique et tout ce qui est de révélation a disparu, jusqu'au point de vraiment nier la réalité. Voilà, pour Michel, et maintenant les anges de la Nativité, dont parle le Nouveau Testament, Avec la venue du Seigneur Jésus, les anges vont avoir maintenant un ministère actif de serviteurs qu'ils n'avaient pas auparavant. Et on voit leur ministère pendant les deux moments de la vie du Christ, la nativité et l'ascension. On le verra aussi quand même, hein, au moment de l'agonie. On le verra aussi sur la croix.
Mais dans l'un des évangiles de la résurrection.
Et dans les évangiles de la résurrection. Quand les deux anges, quand on viendra au tombeau, on trouvera les deux anges. Le péché n'a donc pas cessé de grandir dans l'humanité jusqu'à la venue du Christ. Et Origène écrit, « Avant la venue du Christ, les bons anges ne pouvaient peu de choses pour l'utilité de ceux qui leur étaient confiés. » Et saint Jean Chrysostome dit la même chose. Dieu mettait tout en œuvre par les anges, mais rien n'allait mieux. Eusèbe est encore plus pessimiste quand il écrit « Les peuples étaient aiguillonnés par les mauvais démons et tombaient dans un abîme effrayant de vices. La race des Juifs elle-même était entraînée dans la corruption des nations. » Eh bien, c'est dans cet état de corruption que le Verbe vient sauver l'humanité en péril. Et c'est alors que les anges des nations, sont les premiers concernés et ils accourent à sa rencontre joyeux de recevoir l'aide invincible que va apporter le Seigneur. Le mystère de Noël célèbre d'abord la naissance des milices célestes. Hein, vous savez, dans... C'est d'abord les anges du ciel qui descendent et qui annoncent la joie du ciel. C'est ainsi ce qu'écrit saint Hilaire. Lorsque le Christ descendit pour assumer la nature humaine, il fut accompagné d'une assistance céleste. Quand la bonne nouvelle est annoncée à Marie, quand les bergers voit l'assemblée céleste et entend sa voix, quand après eut lieu la tentation du démon, les anges le servent. Origène voit les anges s'exhorter les uns les autres en disant, ils se disent entre eux, si lui est descendu dans un corps, s'il a revêtu une chair mortelle, que restons-nous à ne rien faire? Allons, anges, descendons du ciel. C'est ainsi qu'il y avait une multitude de la milice céleste qui louait et glorifiait Dieu. Quand le Christ est né, tout était plein d'anges. Voilà. Les anges s'exhortent dans le ciel au moment où apparaît le Christ sur la terre. Restons pas là à ne rien faire, descendons, puisque le Christ est né, réjouissons-nous et allons-nous aussi aider le Seigneur dans son ministère. Les anges sont donc des initiés de l'incarnation. Et cela, avant même la venue du Christ sur terre, ils furent les premiers à apprendre le mystère de l'amour de Jésus pour le monde. Ce ministère devait se poursuivre jusqu'à son agonie. Car vous vous souvenez qu'un ange apparut venant du ciel pour le réconforter. Et puis quand on lit et quand on médite un peu la passion du Seigneur Jésus. C'est une passion qui était impossible à un homme de vivre. Impossible. Il a fallu vraiment que ce soit le Fils de Dieu, avec une force inimaginable. Il a fallu que les anges aussi soient là. Les anges l'ont aidé au fur et à mesure de la passion. Bon, Catherine Emmerich, peut-être d'autres aussi, moi j'ai lu beaucoup Catherine Emmerich, elle rappelle combien, effectivement, les anges ont quand même été aidés le Seigneur tout au long de sa passion. Et vraiment, quand on lit la passion, on se dit, mais c'est pas possible. La flagellation, c'est insupportable. Un homme, il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister à une telle flagellation. Donc les anges ont accompagné le Seigneur Jésus jusque dans ses moments les plus terribles de sa vie, avant même la résurrection, où ils apparaîtront, comme dit Jean-Louis, après... au moment de la résurrection. Les anges de l'ascension, maintenant. Saint Pierre écrit, le Christ, mis en mort selon la chair, a été vivifié par l'Esprit, et c'est en lui qu'il alla prêcher aux esprits en prison. Alors là, il y a encore une chose assez mystérieuse. Enfin, on peut y adhérer ou pas y adhérer, hein, ça c'est possible. C'est qu'au moment où le Christ est en croix, au moment où il dit, il pousse le dernier cri et il meurt. Alors à ce moment-là, bon, une vision de Catherine dit qu'elle a vu son âme comme une flamme de feu qui à ce moment-là est descendue au pied de la croix. Et c'est le grand mystère à ce moment-là de l'âme de Jésus, l'âme de Jésus, qui a quitté son corps et qui s'en va dans les enfers pour annoncer sa résurrection, sa venue, sa présence, qui va délivrer maintenant tous ceux qui attendaient sa venue dans les enfers, dans la situation où ils étaient outre-monde. Et alors, moi, c'est une vision qui me bouleverse aussi, à laquelle j'adhère personnellement, de cet âme de Jésus. Son corps est là, sur la croix, mais l'âme, c'est lui, son âme éternelle, et qui alors, comme une flamme, descend et s'en va donc dans les enfers. Pendant que son corps, pendant 3 jours, va rester au tombeau. Mais c'est le corps, c'est la... Il ne passera pas 4 jours parce que c'est la corruption. Le Seigneur ne veut pas que son saint connaisse la corruption. Il ne restera que 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, le Seigneur laisse son corps et lui, son âme, s'en va faire la prédication au monde angélique et au monde des enfers, tous ceux qui l'attendaient. C'est le mystère du samedi saint. Et alors, au moment après, quand il a accompli ce travail qu'il voulait faire, et il va donc veut revenir, son âme va revenir dans son corps. Et c'est à ce moment-là que le corps lui-même va reprendre vie. Mais ce ne sera pas le même corps qu'avant. Et alors ce corps qui va se réaliser et qu'on verra pendant 40 jours, c'est le corps de Jésus lui-même qui a retrouvé, l'âme a repris, parce que c'est l'âme qui anime le corps, l'âme a repris le corps, mais elle l'a déjà transformé. Elle le laisse comme un corps qu'on peut voir, comme un corps humain, puisque les disciples vont voir effectivement le Christ, vont voir le corps du Christ, le Christ apparaître avec son corps. Mais en même temps, il voit bien qu'il traverse les murs, qu'il n'est plus le même. Il est à la fois le vrai corps du Christ qui est sorti du tombeau. On ne retrouvera plus son corps. Donc, mais on ne retrouvera plus son corps. Il a repris possession de son corps, mais il l'a transformé. Il a transformé son corps de telle façon que c'est à la fois pour ceux qui vont le voir, vraiment lui-même dans son corps, et lui-même dans son corps transfiguré déjà, dans son corps de la résurrection. Seulement, ce n'est pas complètement terminé, parce qu'il va falloir encore attendre pour qu'il s'en aille voir le Père. Et quand il le dit, je ne suis pas encore remonté vers le Père, mais va dire à mes frères que je vais vers mon Père et votre Père. Alors, c'est ce mystère de l'ascension qui va suivre et qui va être où là, à partir de ce moment-là, le Christ va complètement quitter la terre et alors il va rejoindre le Père éternel pour retrouver sa gloire. Mais ce passage me trouve tout à fait extraordinaire. À la fois la mort du Christ, son âme qui quitte son corps, qui s'en va dans les enfers, qui fait la prédication, et qui revient dans son corps, que pendant ce temps-là, on a mis au tombeau, qui réanime son corps, le corps disparaît. Quand on vient le chercher, il n'y a plus de corps. Mais on aperçoit alors quelqu'un, et qui est le Christ, parce qu'on le reconnaît, et qu'on ne le reconnaît pas complètement, et il y a déjà une transformation. Et c'est notre foi chrétienne qui à la fois dit à la fois la mort du Christ, qu'on ne peut pas nier, la mise au tombeau, qui est une réalité, et la résurrection qui se fait dans un corps tel qu'il était auparavant et qui n'est plus le même non plus.
Tu dis que le Christ est allé faire une prédication dans les enfers. J'avais jamais pensé à ça. Je pensais qu'il est allé visiter les enfers pour sortir ceux qui n'étaient pas, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus et qui pouvaient, à ce moment-là, peut-être être encore sauvés. Ça veut dire qu'il y a une prédication, mais ils ne peuvent plus rien faire pour eux.
Il y a la parole dit la prédication aussi. Elle dit aussi la prédication. Qu'est-ce que le Seigneur a annoncé aussi ? Il a dû leur annoncer des mystères que les autres attendaient, mais ne savaient pas. Et alors on va le voir, qu'au fur et à mesure que le Seigneur effectivement descend dans le monde des enfers qui attendait, là, les âmes des justes sont là, elles sont dans les demeures de paix, symbolisées par le sein d'Abraham, ou qui est encore, si on veut, le nom même du paradis, ou encore on l'appelle le Nouvel Éden, c'est-à-dire le lieu où ces hommes, des justes, attendaient leur pleine libération. Alors ça, c'est le mystère de la mort de tous ces justes, de tous les temps, pas uniquement d'Israël, et qui attendaient, puisque en fait... Qu'est-ce que vous voulez ? La résurrection, c'est l'entrée dans un monde complètement nouveau. Les temps n'étaient pas arrivés encore. L'incarnation ne s'était pas encore faite. Donc c'est au moment où l'incarnation se fait que toute l'histoire va être récapitulée dans le Christ. Tout ce qui était avant va recevoir la prédication et être transformé pour entrer à la suite du Christ dans la gloire de Dieu. Et pour cela, les pères utilisent le psaume 24 pour célébrer la sortie des enfers et l'entrée dans la gloire de Dieu. Alors ça, c'est une vision héritée du monde ancien, c'est-à-dire qu'un monde où il y a des différentes demeures, et ces demeures sont gardées par des anges. Quand le cortège triomphal... Le Seigneur rentre, il annonce déjà, un monde le suit déjà, une grande troupe de gens, et puis on va de demeure en demeure pour rentrer, pour aller dans la plénitude de toutes les demeures que Dieu a créées. On est devant un mystère pour nous, qui nous dépasse, bien sûr. Alors, quand le cortège triomphal se présente, les anges qui sont à la garde de chaque demeure voit arriver un cortège, ils sont stupéfaits, et alors le psaume 24 utilisé pour ça, ils disent « Mais qui est ce roi de gloire ?» Et alors on répond « Mais c'est le Seigneur le vainqueur des combats, c'est lui le roi de gloire qui arrive. » Et alors « Porte, levez vos frontons, levez les portes éternelles, et qu'il entre le roi de gloire. » C'est une très belle liturgie, ça. Les hiérarchies les plus élevées posent la question en le voyant entrer chez elles. Et les hiérarchies inférieures qui l'ont déjà reconnu ordonnent aux portes de lever leurs linteaux et répondent « C'est le Seigneur le fort, le vaillant des combats. » Ainsi Jésus entre par son humanité crucifiée et déjà ressuscité, mais avec une fois de plus encore le mystère de son âme. C'est lui-même, mais dans son âme. Il rentre dans ce monde céleste jusqu'au trône donc de la gloire infinie. Mais ça, ce sera plus tard, dans lequel il va retrouver après sa gloire complète. Et Saint Grégoire Nice chante ce mystère de l'entrée dans la gloire. C'est par l'Église que se révèle la rédemption, la sagesse de Dieu. La nouveauté est le Christ lui-même, la vie mêlée à la mort, nos blessures guéries par ses meurtrissures, la force de l'ennemi vaincue par la faiblesse de la croix, l'invisible manifesté dans la chair. C'est par l'Église que nous apprenons ces œuvres divines, que nos cœurs sont touchés par l'amour du Père qui nous a donné son bien-aimé Jésus. Jésus qui a fait l'Église de son corps. C'est donc effectivement, et bien c'est vrai que comment voulez-vous qu'on puisse arriver à comprendre ou à approcher ces mystères si on n'est pas dans l'Église, si on n'est pas dans la révélation. Les anges qui ont accompagné le Christ depuis son incarnation nous aident maintenant à entrer dans ce mystère et à le réaliser dans toute notre vie par la prière et par l'amour. Pourtant, des anges refusèrent d'entrer dans le mystère de la création nouvelle de l'homme et de la rédemption universelle. Et leur refus fit d'eux des démons et qui perdirent leur gloire. Saint Irénée de Lyon écrit « Avant la création des hommes, de grandes créations avaient été faites par Dieu. Parmi elles, un lieu fut donné à l'homme, qui s'y trouvait pourvu de tout. Dans ce lieu, des serviteurs angéliques administraient chacun selon son office. Le chef était un archange, mais à la vue de tout ce que recevait l'homme, il lui porta envie et fut jaloux. » Ben, peut-être Jean, tu nous diras demain qu'est-ce qu'a été cette jalousie qui a effectivement amené Satan. Alors, bon, ça c'est tout à fait, on ne va pas y rentrer en ce moment, parce que chaque chose en son temps. Et donc, ce Satan fut chassé du paradis, et c'est à ce moment qu'il s'appelle le diable Satan. Il est donc celui qui est le premier perverti et qui ensuite n'a pas cessé de vouloir pervertir. L'Apocalypse annonce le retour glorieux, triomphal du Christ. Au cœur de la révélation se tient l'agneau immolé qui a vaincu la mort. J'entendis, nous dit Saint Jean, une multitude d'anges rassemblés autour du trône des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par milliards, de myriades, de milliers, et criaient à pleine voix « Digne est l'agneau immolé, égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et les louanges. Toute créature dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, et sur les mers, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. » Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Donc voilà une partie des anges. Des anges donc, après de l'Annonciation, ensuite de l'Ascension. Ceci nous amène à dire un petit mot, mais je crois que tu le reprendras aussi, les hiérarchies célestes, non ? Oui, aussi, hein, beaucoup. C'est en Éphésiens qui nous annonce que les principautés, puissances, vertus, seigneuries. Et en Colossiens 1, 16, même chose, là il ajoute les trônes, et c'est à partir de ces données que la tradition a élaboré 9 cœurs répartis en 3 triades. Alors, sans aller dans le détail des explications qui seront que tu nous donneras, je crois qu'on va laisser tout cet aspect-là des choses, comme tu en parleras, toutes les hiérarchies moyennes, etc., hiérarchie ecclésiastique. Voilà. Et ça, je te laisse, parce que comme ça, ça ne fera pas double emploi. C'est toi qui nous en parleras. Alors, pour en arriver à une autre partie à laquelle j'apporte beaucoup d'intérêt, maintenant, c'est l'ange gardien. Je voudrais parler de l'ange gardien. Car chacun exprime dans sa vie un besoin personnel d'aimer et d'être aimé, comme quelque chose d'essentiel qui réside en lui, dans sa nature même. C'est la mort, c'est l'amour comme une force divine qui permet la satisfaction de ce besoin d'aimer et d'être aimé. C'est l'expression du don de l'image et de la ressemblance du Dieu d'amour que nous avons reçu et qui nous constitue dans notre être. La Sainte Trinité nous a fait ce don de grâce d'être l'amour par lequel eux-mêmes s'aiment en infusant cet amour dans notre nature humaine. Nous sommes des gens nés dans l'amour et pour l'amour. Et l'amour nous fait sortir de nous-mêmes pour vivre dans l'autre, sans pour autant éprouver une perte de soi. C'est le même mystère de la Sainte Trinité qui se réalise en nous. Les personnes s'aiment en s'épuisant elles-mêmes jusqu'à ne plus être elles-mêmes. Et c'est dans cette kénose, dans cet affaiblissement, dans cette dépravation même profonde de soi-même que chacun peut recueillir l'autre tel qu'il est. Et c'est l'amour infini de la Sainte Trinité où chaque personne s'épuise pour que l'autre, pour l'autre, elle devient quasiment rien pour que l'autre soit l'autre. Et c'est ce mouvement-là qu'est l'amour. C'est l'épuisement de soi pour trouver, pour que l'autre vive, pour que l'autre soit. L'amour fait sortir de nous-mêmes pour vivre dans l'autre, sans pour autant éprouver une perte de soi. Eh bien, c'est la recherche de l'ami, de l'autre, de l'alter ego qui désire l'avoir en soi comme un autre soi-même, comme un autre moi. Chacun recherche cet autre, cet alter ego. Alors, qu'on le trouve dans l'ami, dans l'amour conjugal, quelque chose qui veut rechercher l'autre, qui veut se donner à l'autre, qui veut rechercher l'autre. Le grand mystère de l'amour dont la source est dans la Sainte Trinité, où chaque personne s'épuise elle-même au point de ne plus être que l'autre, et dans cet arrachement de soi connaît ce qu'est le bonheur. Le mystère de l'amour, il est là. C'est Dieu qui est comme ça. Ça nous dépasse. Pourquoi en se dépouillant de soi-même, on est alors capable de rencontrer l'autre et de rentrer dans l'autre et d'éprouver un bonheur, alors qu'en fait, un dépouillement de soi devrait conduire quand même à une diminution, à quelque chose qui serait presque un malheur de se perdre. Bien non, c'est tout le contraire, c'est le mystère de l'amour de Dieu. Dieu nous a lui-même vit comme ça et il nous a construit comme ça pour que nous puissions vivre à son image de l'amour qui s'épuise pour aimer, pour trouver l'autre et pour vivre de l'amour. Et le contraire de cela, c'est l'égoïsme qui est un état contre nature qui se ferme à l'autre. Eh bien, pour nous aider à réaliser notre vocation divine, à vivre cet amour, Dieu nous a mis à notre disposition divers moyens, dont une présence personnelle d'un ange. Et alors, c'est ce que nous appelons l'ange gardien. Dans une autre rencontre, je dirais qu'il existe une étroite union indissoluble entre le monde angélique et le monde humain. Et dans cette vision, on peut concevoir, comme des auteurs d'Angélique l'ont fait, que chaque personne humaine a dans le ciel cet alter ego que nous cherchons. Il est dans le monde angélique une sorte de jumeau. Nous avons chacun une sorte de jumeau dans le monde céleste. parce qu'il y a une communion profonde entre les deux mondes du ciel et de la terre. Chacun a son jumeau céleste. Et c'est ce qui explique le désir le plus profond que poursuit tout homme en ce monde et que l'amour conjugal ne peut pas combler complètement. Bien sûr, on va dire, c'est toujours Dieu qui est le premier recherché. Mais c'est aussi un don de son immense amour que de pouvoir exprimer son amour de cette façon-là, en créant donc le monde du ciel et de la terre et en créant un ange qui va nous accompagner dans notre vie. Le but final, c'est que tout se résume dans la vie de la Sainte Trinité. Eh bien, cet ange qu'on va appeler l'alter ego ou mon jumeau dans le monde céleste veille toujours sur nous. Et on comprend qu'il vit sur nous, qu'il vit avec nous et d'une vie unique. Il est le plus proche et pourtant lointain en même temps puisqu'il est invisible, inaudible, inaccessible. Aucune perception corporelle ni même psychique ne peut le découvrir, le ressentir, à moins d'une grâce. Et ça, après, c'est autre chose. Que le Seigneur en fasse la grâce, les gens le découvrent. Mais son contact spirituel pour chacun de nous, en dehors de cette grâce, est si délicat qu'il exerce réellement sa présence, et même si nous n'en sommes pas conscients. Il est terrible et invincible quand il nous protège contre les assauts que les esprits impurs et malins lancent contre nous. Ce guerrier spirituel nous préserve sans relâche et son activité est incessante, toujours intense. Il y met toute sa force et par contre, il ne s'impose pas. Il ne veut et ne peut contraindre son amour terrestre. Mais il lui souffle dans le silence de sainte pensée. Le silence est son lieu d'action, car le silence est le grand mystère du siècle à venir, comme l'indique Isaac le Syrien. L'ange, notre ange, regarde dans notre âme. Il nous voit intimement, et cela suffit pour que existe un entretien mystérieux avec lui, lui qui est notre moi d'en haut. Quand nous nous abandonnons à l'influence de cet être tendre et cher, jamais il ne nous insigne, il nous enseigne quelque chose directement, mais par son influence. Nous ne sommes pas du tout capables de nous rendre compte à cause de sa profondeur, de son intimité, au cœur de notre être, au cœur de notre âme. Dans sa relation avec nous, il connaît lui aussi des joies quand nous nous réjouissons, des afflictions quand nous péchons, à cause de cette union intime avec lui. Dans son accompagnement, il est passion, comme nous pouvons l'être en souffrant pour nos proches et amis qui sont éloignés du Seigneur. Le suicide est l'insulte suprême à son amour, puisqu'il est une rupture du lien qui nous unit à lui. On ne pense pas toujours à ça. C'est pourquoi on peut l'appeler l'ange de la pénitence. Son rôle est aussi d'exciter le repentir dans l'âme pécheresse. La pénitence n'est pas seulement un châtiment. Elle apporte la guérison des effets du péché. Eh bien, notre ange doit aussi nous assurer ce service et nous aider au sacrement de pénitence. Un autre service qui nous vient de notre ange, c'est celui de la prière privée, qui se fait en présence des anges. Les anges se rassemblent près de celui qui prie Dieu pour s'unir à sa prière, dit Cyprien. Même si les démons viennent perturber notre prière, nous n'avons rien à craindre d'eux, parce que notre ange voit la face de notre Père, il nous protégera. L'ange circule ainsi entre nous et le ciel. Il monte vers Dieu, apportant avec lui nos demandes et nos supplications, et il redescend, apportant les grâces nécessaires pour mener le combat spirituel. Y a-t-il un démon particulier qui lutte aussi contre nous? Comme il y a un ange alter ego et qui nous aide, y a-t-il aussi un démon particulier qui voudrait nous conduire vers le mal? Et dans ce combat alors, ce combat aurait alors atteint une nouvelle ampleur. Saint Paul nous renseigne sur ce combat quand il dit que nous avons à lutter contre les puissances, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Alors moi, je vous confie simplement une chose là-dessus, parce que de temps en temps, quand je vois combien des pensées me traversent, quand je suis en prière et que vraiment bon, des trucs comme ça sont en train de perturber mon esprit en prière, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un démon là qui travaille? Et où est-il ce démon là qui travaille, qui est toujours pour s'opposer à une relation à Dieu, une relation de prière? Est-ce qu'il y a des démons particuliers qui nous assaillent? On parlera de cette question plus profonde, plus en détail après-demain. Mais la question quand même peut se poser. S'il y a d'un côté un ange alter ego qui vraiment nous aide dans le combat spirituel dans lequel nous sommes insérés, un combat eschatologique, il n'y a-t-il pas des puissances qui agissent d'une façon générale? Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus, je m'en pose la question, des démons qui, plus particulièrement, il y a même des raisons quand même pour le penser, parce que quand le Seigneur fait un exorcisme en particulier sur cet homme qui avait une légion en lui, n'y a-t-il pas, à notre insu, sans qu'on le veuille, ce combat intérieurement avec, c'est pourquoi l'ange gardien est si important, pour à ce moment-là appeler l'ange gardien pour dire « chasse ce démon ». Et nous devons faire, nous aussi, des exorcismes à ce moment-là en disant « va-t'en ».
Est-ce qu'il n'y a pas une tradition qui dit qu'au moment du jugement particulier, voilà, il y a l'ange qui accuse
et voilà,
qui défend?
Ben oui, il y a ça aussi. Un accusateur d'un côté et un ange qui vient dire « non, c'est pas vrai ». Quoi. Mais vous savez, on est dans un monde plein de calomnies. Et alors, y a-t-il pas en ce moment, effectivement, des démons qui nous attaquent vraiment? Alors, ou peut-être antérieur dans nos pensées, à quelques moments, bon, je me demande où, quoi. On dit, par exemple, que les démons sont dans les replis de l'âme. Ça veut dire qu'ils auraient un lieu mystérieux où ils pourraient quand même nous perturber. Mais il y a aussi la grande manifestation démoniaque dans la société. Alors on verra, si vous voulez, on verra tous un peu ces questions-là, que la façon dont les démons peuvent travailler pour nous perturber. Donc, dans notre relation d'amitié avec notre ange gardien, nous sommes entraînés par lui dans une vie de charité envers nos prochains, selon la parole du Seigneur. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis aux cieux, leurs anges voient toujours la face de mon Père céleste. Matthieu 18, 10. De ce texte, on peut tirer que tous les hommes ont leur ange gardien à la naissance, avant même le baptême. Alors ça, ce sera aussi des choses qu'on trouve avec, dans la tradition théologique, pour savoir si le Seigneur a donné l'ange après le baptême ou grâce au baptême, ou bien s'il a donné avant, même dès la naissance. Et aujourd'hui, on pense que c'est directement quand Dieu crée, insuffle un esprit qui fait que la personne naît, alors à ce moment-là, Dieu lui donne un ange gardien et qui fera donc qui aura une relation avec lui tout au long de son existence. Et en fait, effectivement, le baptême qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, et il y a là peut-être aussi une nouveauté qui vient du Christ, du Nouveau Testament, où le Seigneur peut-être donne maintenant une autre mission plus profonde à l'ange pour accompagner l'homme, pour l'aider donc dans sa mission d'amour. L'ange peut d'autant mieux accomplir sa mission d'éducateur auprès de son protégé, mais il ne faut pas trop limiter l'aide angélique au seul ange gardien. Bon, on a parlé de l'ange gardien. Il y a l'ange des nations, mais ça, on le verra plus tard. Bon. Eh bien, maintenant, un cas très particulier, c'est Marie. Du fait de sa sainteté, qui dépasse toute créature humaine et angélique, Marie a-t-elle un ange gardien ? L'ange Saint Gabriel a été choisi par Dieu pour être le messager auprès de la Vierge Marie à cause de son éminente sainteté. Faut-il en conclure que Gabriel puisse être l'ange gardien de Marie ? Ce n'est pas son alter ego, car elle est l'épouse du Christ, mais Gabriel est auprès d'elle ce que l'ange gardien est auprès de nous, un serviteur personnel de la mère de Jésus. Et en ce sens-là, on pourrait dire que Gabriel est effectivement aussi l'ange gardien de Marie. Est-ce que Jean-Baptiste a eu un ange gardien? Bien, la réponse, elle est donnée surtout par les icônes. Dans toutes les icônes, on voit toujours aussi, d'un côté, le Seigneur, au centre, le Seigneur Jésus, Marie et Saint Jean-Baptiste. Alors, il se peut que, effectivement, Saint Jean-Baptiste ait lui aussi eu un ange gardien. On en fait le remplacement de Lucifer dans le monde angélique. De sorte qu'il se trouve, Saint Jean-Baptiste, il faudrait étudier la vie de Saint Jean-Baptiste ou le mystère de Saint Jean-Baptiste, parce qu'il est une sorte de jointure entre deux mondes, le monde humain et le monde céleste. Le Christ, lui, a-t-il eu un ange gardien ? Non, c'est impossible, puisque c'est lui qui est le maître. Et alors qu'il se laisse aider, servir par des anges. On le voit, des anges qui le servent après la tentation. Dans sa nature céleste de Verbe incarné, il est le Créateur par qui tout a été fait. Il ne peut donc pas avoir de protecteur. Par contre, dans sa nature humaine, il pouvait être servi par des anges. Voilà. Eh bien, par des purifications, des illuminations, notre ange gardien en particulier vient nous révéler le mystère de Dieu, de son grand amour des hommes, et il éveille en nous une soif plus ardente de lui être uni. C'est le sens de l'amour que notre alter ego entretient en nous et avec nous. Il est pour nous l'ami fidèle de l'époux qui conduit l'âme jusque dans la chambre nuptiale pour y célébrer le mariage mystique avec le Verbe, c'est-à-dire pour réaliser notre vocation de vivre éternellement dans l'amour de la Sainte Trinité, notre vocation de devenir des enfants de Dieu.